Bonjour Annabelle.
Bonjour Arnaud.
Alors, vous êtes en train de donner le biberon à May, qui est là dans vos bras, qui a un mois et demi. Elle est chouette, elle s'apaise, elle est en train de s'endormir. Oui. Regardez, elle a les deux mains ouvertes. On sent qu'elle va déplier les bras, qu'elle va s'endormir. C'est la fin du biberon, là.
Oui.
Et les bras qui tombent, c'est fabuleux.
Oui. Elle est zen quand elle voit son biberon. C'est son moment.
C'est son moment.
Et elle adore
parle,
ça.
Alors on va essayer de ne pas trop la déranger.
Oui.
Et là, aujourd'hui, on voulait faire un petit point sur le RGO.
Bah oui, parce qu'en fait, tout le monde diagnostique ce RGO systématiquement sur son bébé avec les reflux. Et c'est normal qu'un bébé ait des reflux.
Alors, le RGO, c'est quoi? C'est reflux gastro-œsophagien. Beaucoup de parents font des diagnostics tout seuls en croyant que leur bébé, parce qu'il est agité, parce qu'il a des remontées de lait, parce qu'ils n'arrivent pas à le calmer, que c'est forcément un RGO. Et on a même inventé maintenant le RGO interne. Ah bah oui, le RGO interne, ça remonte dans le bas œsophage, ça ne remonte pas jusqu'en haut. Donc voilà, tous les maux de mon bébé qui est agité, qui pleure, qui n'arrive pas à s'endormir, qui n'arrive pas à calmer, etc., etc., c'est un RGO interne. Et on arrive avec des parents qui sont épuisés, alors que ce n'est pas du tout ça dans 90% des cas. Ça peut être plein d'autres choses. Un lait qui n'est pas adapté, un rot qui ne passe pas, un enfant qui est stressé, des parents qui sont stressés et fatigués. Et j'en profite pour rappeler que un nouveau-né, un nourrisson, c'est un véritable buvard. Et donc, un buvard à émotions. Et bébé a besoin d'être rassuré. Et si les parents sont stressés, se posent 36 000 questions, vont sur Internet pour trouver la réponse à leurs questions, ça va rajouter du stress et le bébé va le ressentir. Donc, plein de choses qui font oublier, finalement, qu'un nouveau-né a le droit d'être agité, d'avoir des moments de calme et des moments d'agitation. D'ailleurs, dans les phases d'éveil, il y a des phases d'éveil calme et des phases d'éveil agité. Il y a des moments où un bébé est calme, il est éveillé, mais il est calme, puis d'autres où il va bouger dans tous les sens. C'est normal. C'est au niveau de son cerveau que ça se passe. Pareil, dans le sommeil, un nouveau-né, il a une première phase, les cycles de sommeil durent à peu près 50 à 60 minutes chez un nourrisson. Eh bien, la première phase de sommeil qui dure 20 minutes, c'est du sommeil agité. Et d'ailleurs, les mamans, les parents le voient bien. Vous couchez votre bébé à ce moment-là, il se met à hurler.
Oui, c'est ça.
Et quand on se penche ou on quitte la chambre alors qu'il est dans les 20 premières minutes, il sent que les parents sont en train de partir, il va se mettre à se réveiller. Donc les 20 premières minutes, c'est une phase de sommeil agité. Et les 40 minutes suivantes, ça va être une phase de sommeil profond et de sommeil calme où là, on est même parfois inquiet. Parce que bébé ne respire presque plus, il ne bouge plus, il devient pâle. On se dit, mais il est peut-être mort, il ne respire plus. On s'inquiète, non, il est dans une phase de sommeil calme. Et c'est tout à fait normal. Alors, le RGO, eh bien, il faut savoir que tous les bébés ont des régurgitations. C'est fréquent. Dans le ventre de leur maman, le liquide amniotique rentre par la bouche, par le nez, ça rentre, ça descend et ça remonte, ça va dans l'estomac qui existe, qui est en train de se construire. Et il y a une partie de la nutrition, de la mémorisation, des odeurs, de l'immunité aussi qui se fait par le biais de ce liquide amniotique qui rentre dans l'œsophage et qui va vers l'estomac. Et ça ressort de l'autre côté sous forme de méconium. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Ça nourrit la peau. À la naissance, en particulier chez les prématurés, eh bien, le système anti-reflux au niveau de l'estomac n'est pas du tout mature. Et donc, il est normal qu'un bébé, il vient de prendre son biberon, une tétée, et tout d'un coup, alors qu'il n'y a rien qui prévient, il est calme, il est dans vos bras, et tout d'un coup, pouf, vous avez une grosse giclée de lait qui ressort et par le nez et par la bouche. Et ça inquiète les parents qui se disent « Oh là là, mais si ça lui arrive pendant qu'il dort, il va s'étouffer, il va arrêter de respirer. » Non, ça n'arrive pas. C'est impressionnant. On le manipule avec précaution ou pas, c'est pas le fait de le manipuler calmement qui fera qu'il aura moins de régurgitation. Mais c'est classique. Et c'est avec le temps, en apprenant à bouger, en bougeant ses membres, ses bras, en apprenant à se mettre sur le côté vers l'âge de 3 mois, puis plus tard à faire du quatre pattes, à se retourner, à être sur le ventre, que le nourrisson va développer sa motricité globale, sa musculature, et tout cela va participer à la maturation de ce système anti-reflux. Donc, on ne stresse pas, on ne fait pas de diagnostic hâtif, on ne va pas tout de suite à la pharmacie pour demander un lait épaissi parce que bébé a des remontées de lait. Et non, surtout pas, parce que ça va peut-être arranger un peu quelques régurgitations, mais ça va rajouter un autre problème, c'est les coliques. Parce que les épaississants qu'on met dans les laits, ce sont des, c'est de l'amidon, souvent, ça peut être de la caroube, ça peut être de l'amidon de maïs, ça peut être de l'amidon de riz. Du coup, ces produits-là vont favoriser les coliques. Et alors après, on a peut-être moins de régurgitation, mais on a un bébé qui est très agité, on ne sait pas pourquoi, c'est à cause de l'épaississant. Ça y est, maïs s'est endormi.
Oui,
c'est endormi. Elle est extra. Alors voilà, ça y est, il y a les bras le long du corps. Elle est apaisée.
Et là, par exemple, je devrais lui faire faire l'euro ou pas?
Ben non. Mais non.
Non, elle
dort. On la laisse tranquille. Il faut qu'il y ait cette phase où le lait est bien entré dans l'estomac, où il commence à floculer un peu, c'est-à-dire commence à se prédigérer. La vidange de l'estomac commence petit à petit. Et puis, quand elle va commencer à rebouger un peu, ben là, vous la redresserez un peu et c'est là que vous faites l'euro.
Ok.
Tranquillement.
Tranquillement.
On laisse faire. Elle est en position demi-assise, donc tout va bien.
Et c'est vrai que moi, j'ai eu le cas où elle a fait un reflux où tout est sorti par le nez. Et ça, oui. Ça m'a impressionnée. Sur le moment, je me suis dit mince. Et en fait, en même temps, elle avait un petit rhume. Donc, je me suis dit mince, ça doit être à cause du rhume que tout ça se passe. Mais finalement, Non, c'est tout à fait normal en fait que d'avoir. Et donc, du coup, elle, ça l'impressionne aussi parce que bon, voilà.
Oui, voilà.
Mais il suffit juste de la rassurer, encore
une fois. Il faut la rassurer.
Et ça passe tout seul. Hein.
Elle découvre.
Ouais, elle découvre.
Et c'est comme toujours un enfant, même plus grand, ben, quand il tombe, il ne faut pas que le parent ait le visage complètement défait. Parce que l'enfant s'est tombé et se met à hurler. Il faut rassurer. Voilà, elle fait un sourire génial. Et il faut que l'enfant sente que l'adulte est rassuré. Et ça rassurera l'enfant. Et alors, pour revenir au RGO, eh ben, pas de diagnostic fait à la maison. C'est le médecin qui fera le diagnostic, parce que les RGO sont rares. Pas de changement de lait ou prendre un lait épaissi comme ça sans le conseil du médecin. Et dans certains cas, le médecin va aller voir s'il n'y a pas un problème d'allergie aux protéines du lait de vache qui peut expliquer qu'il y ait des remontées de lait. Est-ce que le biberon est adapté? Est-ce que le lait n'est pas trop riche en lactose? Il y a plein de choses qu'on va voir avec le médecin avant de dire que c'est un RGO. Et dans certains cas, le médecin prescrira, si besoin, une échographie pour voir s'il y a d'autres signes, mais c'est rare, on le fait de moins en moins.
Et c'est vrai que ça, c'est hyper important aussi de pas de faire confiance à son médecin, parce que moi, je lis trop de choses où les parents, en fait, se disent mince, oui, mais il me dit pas, il fait rien pour mon enfant, il continue à avoir ça, donc moi-même, je vais... Alors, il y en a qui testent l'homéopathie, qui testent plein d'autres choses, en fait, aussi alternatives, l'ostéopathe, enfin voilà, et très rapidement, alors que finalement, en fait, c'est peut-être juste, ben, c'est normal, et bébé pleure, et en fait, c'est normal. Et il régurgite,
c'est normal.
Et c'est normal.
Un bébé a souvent des régurgitations, et c'est pas parce qu'il est agité, qu'il pleure, qu'il a des gaz, que c'est un problème digestif. Ça peut être tout à fait autre chose. Et alors, pour la petite histoire, bon, il y a un conseil que je donne aux parents dès la maternité, c'est de pas hésiter à apprendre à bébé à être sur le ventre. Il faut le faire souvent, ça. On va mettre bébé sur le ventre, sur la table allongée, par exemple, ou sur le tapis d'éveil, toujours sous surveillance. On ne laisse jamais son bébé seul sur le ventre, ça, jamais, 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 jamais. Et vous le laissez pendant 5 ou 10 minutes sur le ventre, en étant à côté d'elle. Et le gros avantage, c'est qu'en étant sur le ventre, elle va bouger les jambes, elle va se masser le ventre sur le plan de travail, et du coup, elle va s'autonomiser, elle va gérer ses petits, sa digestion, le péristaltisme intestinal, les coliques, elle va se masser le ventre elle-même. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'elle va redresser la tête, et en redressant la tête, elle va développer la musculature du crâne, ça permettra d'éviter qu'elle ait le crâne plein plus tard. Donc, ça, c'est des petites choses utiles à faire.
Et c'est vrai que ça, alors nous, on le fait à la maison, on la met sur le ventre, et même aussi sur soi. J'ai remarqué, si vous êtes avec elle et que vous la mettez sur le ventre, alors elle s'agite, vous avez l'impression qu'en fait, elle s'énerve, mais non. En fait, elle bouge les jambes et en fait, ça l'amasse.
Ça l'amasse.
Elle aime bien.
Elle cherche. Ouais. Elle trouve la meilleure position. On l'aide. En fait, c'est elle qui va trouver la bonne position. On la bouge un peu, on lui donne une... Mais elle va se caler dans la nouvelle position.
C'est ça.
Voilà.
Et c'est vrai que elle, pour le coup, alors tous les bébés sont différents. Ça aussi, c'est important de le dire. On ne peut pas comparer à une copine, etc.
Jamais comparer.
Chaque bébé est différent. Mais c'est vrai qu'elle, pour le coup, position... des fois, elle aime bien être sur le dos. Des fois, elle aime bien être sur le ventre. Comme nous, en fait. Hein.
Oui.
Tout simplement. On aime bien changer de position de temps en temps. Et puis, voilà.
C'est pour ça que je disais qu'un pleur chez un bébé, ça peut être... un inconfort. parce qu'elle n'est pas bien positionnée, qu'elle a trop chaud, elle a un bras coincé, l'épaule qu'elle ne peut pas bouger, la tête qu'elle veut bouger un peu plus. Mmh. Donc, on regarde, on apprend, on décrypte.
Et puis, ça va le faire. Et c'est vrai que, alors ça, c'est pour raconter par rapport à son expérience à elle, mais elle adore être sur notre épaule. Et donc, je pense que ça lui appuie bien sur le ventre. Elle aime bien qu'on marche en même temps qu'elle est sur notre épaule. Et souvent, elle nous fait des régurgitations comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, et finalement, elle régurgite et après, ça va beaucoup mieux et elle est bien. Et en fait, et surtout, quand elle est sur notre dos, elle est très curieuse et donc elle lève la tête et elle regarde tout ce qui se passe. Et donc ça, elle adore, c'est favori.
Ça stimule un enfant et c'est une très bonne position. Et au passage, la meilleure position pour faire l'euro, c'est la position du Bouddha. J'en parle dans un de mes livres, là, le bébé mode d'emploi.
On le met
assis en tenant bien les épaules, la tête, et puis on le laisse aller un peu en avant, puis on revient un petit peu en arrière, puis on refait doucement vers l'avant. Et là, alors à tous les coups, les enfants qui ont du mal à faire l'euro, c'est la meilleure position en le tenant bien. Il faut bien maîtriser le mouvement et ça marche bien. Et la deuxième position, c'est celle dont vous parliez, contre l'épaule, puis on marche pieds nus.
Oui.
Le fait du pied nu, mais on ne tape pas forcément dans le dos, parce que ça va favoriser une régurgitation importante. Et on laisse faire. L'enfant le fait.
Moi, là, avant, j'ai tapé dans le dos, et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit, mais effectivement, souvent, le soir, je marche pieds nus, la nuit notamment, et bon, je ne fais pas beaucoup de bruit, donc je marche, et en fait, c'est ça qui l'a fait
roter. Ouais, c'est super. Bon.
Et merci Arnaud.
Merci Annabelle, à bientôt.
À bientôt.